a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Yves Saint-Omer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 8 et auteur de La petite histoire de l'expérimentation démocratique aux éditions de La Découverte. Alors, l'examen du budget retient toutes les attentions. En ce moment, tout se passe à l'Assemblée nationale pour la partie la plus visible et dans les coulisses pour la partie la plus politique, on va dire. Au Palais Bourbon, beaucoup a été dit et fait ces derniers jours, mais cela n'a pas suffi pour que les mesures soient adoptées. Tout s'est arrêté pour le moment, la nuit dernière, comme Victorien Villaume nous le raconte.
Mes chers collègues, la séance est levée.
Il est pile minuit dans l'hémicycle quand la présidente de l'Assemblée annonce la fin des débats. Les députés, comme c'était à prévoir, ne sont donc pas allés au bout de l'examen du projet de loi. Plus de 1500 amendements doivent encore être examinés. Résultat, pas de vote solennel mardi et des débats qui reprendront vraisemblablement dans une semaine. Alors, contrairement à ce que craignaient les oppositions, le gouvernement a donc bien laissé pour l'instant les débats se dérouler. Une façon pour Michel Barnier d'afficher l'apaisement qu'il prône depuis son arrivée à Matignon. On ne cède pas à la facilité du 49-3, défend d'ailleurs encore la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon ce dimanche. Mais le Premier ministre veut peut-être surtout gagner du temps pour pouvoir dire au moment opportun « Regardez ce que les oppositions ont fait du texte, regardez cette surenchère fiscale, je n'ai plus le choix ».
D'où la colère de Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Le député de la Somme l'a dit sur France 3.
Je suis très en colère en fait, parce que c'est sciemment que le gouvernement et les partis qui le soutiennent ont saboté ce budget. Mais il faut savoir que normalement, les partis qui soutiennent un gouvernement ne déposent pas d'amendements, puisque par définition, les partis qui soutiennent un budget sont d'accord avec ce budget. Les amendements, c'est pour le changer. Pour la première fois sous la Ve République, les amis de M. Wauquiez et les soutiens de M. Macron ont déposé plus de 1500 amendements à eux tout seuls. Ça veut dire, en termes de temps nécessaire, qu'il aurait fallu 12 jours pour étudier ces amendements alors qu'on n'a que 5 jours. Donc quand ils font ça, ils sabotent quand les insoumis faisaient de l'obstruction pour le régime des retraites. Les macronistes les condamnaient. Eh bien, ils ont fait la même chose parce qu'effectivement, c'est mépriser le Parlement et c'est surtout mépriser les Français. Parce que si les parlementaires ne peuvent pas voter, par exemple, sur les hausses d'impôts, ça veut dire qu'on va faire ça dans le dos des Français.
Yaël Braun-Pivet est-elle présidente de l'Assemblée nationale, députée Ensemble pour la République des Yvelines. Elle constate que personne n'a fait beaucoup d'efforts dans l'hémicycle.
Moi qui ai présidé hier toute la journée de 9h du matin à minuit, je n'ai pas beaucoup vu de volonté d'aller au compromis de part et d'autre. Un budget, ça se construit. Si on veut parvenir à une solution qui soit la meilleure, il faut essayer de prendre des idées qui viennent de la droite et de la gauche. Et puis, il faut un gouvernement qui soit en capacité d'assurer cette construction. Nous avons une Assemblée nationale qui est très fragmentée. Nous avons trois blocs politiques. Aucun ne détient de majorité, fût-elle relative. Donc, nous sommes en quelque sorte condamnés à nous entendre. Maintenant, il faut que le gouvernement tienne compte de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, des débats, des amendements qui sont votés. En fait, je respecte infiniment les Français. Je suis tenant de la volonté populaire exprimée par les Français en juillet dans les urnes.
Yves Saint-Omer, on va le détailler dans tout cela dans un instant. Mais pour résumer, rien n'est fait, tout reste à faire.
Oui, rien n'est fait, tout reste à faire, dans le sens où, d'une part, beaucoup d'amendements doivent encore être examinés. Deuxièmement, il y a toujours la menace du 49-3 qui pourrait interrompre les débats à quelques moments que ce soit lorsque le gouvernement le décidera. Et puis, il y a la possibilité que même si les amendements étaient tous examinés, le budget ainsi transformé ne soit pas adopté en séance plénière par les députés.
Vous avez suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous qualifiez les débats ?
Écoutez, je crois que pour des citoyens ordinaires, des Français normaux et des Françaises normales, la chose est bien difficile à suivre, car on a d'une certaine manière un jeu de rôle où les oppositions font, c'est leur rôle, des amendements. Pour l'instant, c'est le nouveau Front populaire qui en ressort plutôt gagnant, mais avec peu de chances qu'au bout du compte, les succès partielle qu'il obtient puisse être pérennisée. De façon très étonnante, et cela a été souligné par le Rassemblement national à juste titre, pour le coup, un nombre extrêmement important d'amendements ont été portés par des députés de la majorité gouvernementale, ce qui est paradoxal. Et puis, un absentéisme extrêmement important de beaucoup de députés, en particulier du camp gouvernemental. Donc, au bout de tout ça, on se demande bien ce qu'il peut arriver et si ça sert à quelque chose.
Alors, il faut noter que le Rassemblement national hausse le ton à l'égard de Michel Barnier, qu'il a épargné jusque-là. Le parti annonce en effet aujourd'hui qu'à ce stade, il votera contre le budget. Le Premier ministre ne dialogue pas avec nous. Sébastien Chenu prévient le gouvernement. Vous êtes en train de créer les conditions de votre censure. Ça se raidit de ce côté-là.
Alors, il y a évidemment des positions qui visent à infléchir le budget qui sera, au bout du compte, adopté. Et le Rassemblement national, qui est le principal soutien extérieur potentiel du gouvernement pour que le processus aille jusqu'au bout, est dans son rôle de le dire. Il faut noter que si, au bout du compte, le budget est rejeté par les députés, parce que trop d'amendements du Nouveau Front Populaire auraient été acceptés, c'est la balle qui sera rendue au Sénat, qui aura, lui, avec un autre axe de gravité politique, à faire le budget. Donc on reste encore dans l'expectative.
Yves Saint-Omer, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 8.
Philippe Le Caplin.
Rien n'avance donc et la question qui commence à se poser est de savoir si le gouvernement va accentuer la cadence, l'accélérer en recourant à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui permet l'adoption d'un texte sans vote, autrement dit de se passer de l'accord du Parlement, Assemblée et Sénat. Voilà ce qu'en dit la présidente de la Chambre basse.
Lorsque l'on demande un effort aux Français, il faut que cet effort soit partagé par tous. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit la foire à la saucisse des taxes. On a vu pendant la semaine à l'Assemblée nationale qu'il y a près de 60 milliards d'impôts ou de taxes qui ont été votés. Je pense que c'est extrêmement dommageable. Et donc, il faut avoir maintenant la vision d'ensemble. Cette vision d'ensemble, seul, finalement, le gouvernement peut l'avoir et nous dire ce qu'il va retenir, ce qu'il ne va pas retenir.
Vous êtes optimiste sur le fait que le 49-3 pourrait ne pas être utilisé?
Écoutez, on verra. Le gouvernement est libre d'utiliser les instruments constitutionnels qui sont à sa disposition, donc le 49-3 en est un. Le 49-3, c'est dire, voilà ce que nous retenons des débats et nous souhaitons avancer pour que nous puissions examiner la partie dépenses.
Ça ne peut pas être donc que la copie du gouvernement, rien que la copie du gouvernement.
Bien sûr que non. Le gouvernement doit tenir compte des débats à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale siègent les représentants du peuple élus en juillet dernier.
Yael Braun-Pivet chez nos confrères de France 3. François Bayrou, lui, du MoDem, vient également de s'exprimer sur le recours à l'article 49.3.
Le gouvernement ayant entre les mains l'arme très puissante et je crois très justifiée du 49.3. On a dit beaucoup de mal du 49-3. On va s'apercevoir dans les mois qui viennent que le 49-3, c'est vital en 5e République, quand on n'a pas de majorité. Donc on va s'apercevoir que les propositions de l'Assemblée nationale, elles ne seront retenues que pour une part que le gouvernement jugera en cohérence avec sa politique. Vous ne pouvez pas avoir déluge d'impôts imposés par des amendements avec ou sans cohérence. Je vous dis avec certitude, ce qui sera retenu dans le projet de loi de finances, c'est ce que le gouvernement considérera comme acceptable.
Écoutons maintenant Jean-Philippe Tanguy, député RN, qui répond à la question. Est-ce qu'il pense que Michel Barnier va recourir au 49-3?
Je ne sais pas, il y a une autre méthode, plus machiavélique, qui consiste en fait à laisser traîner les délais, à épuiser le Parlement, traîner en longueur, et le fait que le délai constitutionnel de 70 jours s'épuise, et qu'en fait, il y ait un vote par défaut. Ce qui est très choquant dans la méthode utilisée par Michel Barnier, c'est que sous ses airs de sage, c'est une personnalité machiavélique, puisqu'il sait très bien ce qu'il le fait. Et ce serait la première fois de l'histoire de la Ve République qu'on épuise volontairement les délais, qu'on épuise le Parlement, tout en ne disant rien. Parce que quand même, Michel Barnier ne dit absolument rien sur ce qui se passe.
Yves Saint-Omer, que pensez-vous de ce raisonnement? Est-ce que le gouvernement joue la montre pour finalement épuiser les parlementaires?
Écoutez, je ne suis pas dans le cercle étroit qui conseille le Premier ministre, mais c'est un scénario qui a une certaine plausibilité. D'autant que, comme nous l'avons déjà dit, beaucoup d'amendements ont été déposés, énormément d'amendements ont été déposés par des députés de la majorité. Maintenant, la possibilité d'un 49-3 qui reprendrait une partie des amendements déposés, en particulier ceux compatibles avec l'agenda gouvernemental et ceux qui pourraient donner au Rassemblement national des raisons de ne pas voter contre le texte, ou de s'abstenir en tout cas, et de ne pas voter une motion de censure, et reste tout de même la possibilité la plus probable.
Michel Barnier a dit depuis qu'il est arrivé à l'hôtel de Matignon qu'il respecterait le Parlement. Est-ce que recourir au 49-3 serait pour lui se dédire ?
Alors, il faut noter que le 49-3 est quelque chose de relativement exceptionnel qui caractérise la Ve République française comparé au régime politique voisin. On a souvent dit que le Parlement français de la Ve République était un Parlement croupion, et le 49-3 en est, d'une certaine manière, l'exemple le plus fort. Il est vrai qu'avec ce cadre constitutionnel-là, le recours au 49-3 dans une situation où il n'y a pas de majorité parlementaire est un instrument constitutionnel et qui peut sembler fonctionnel, mais qui, du coup, s'appuie très largement sur un rejet de la représentation qui est sortie des élections.
Vous parliez d'instruments exceptionnels à l'instant. Pourtant, Elisabeth Borne y a eu recours à de nombreuses reprises et cela n'avait pas plongé la vie politique dans les abîmes.
Oui, quand je disais exceptionnel, j'aurais dû préciser exceptionnel par rapport à ce qui se passe à l'étranger. C'était un instrument qui a été utilisé régulièrement, mais dont la fréquence a été énormément augmentée avec les précédents gouvernements du président Macron. Évidemment, ça ne plonge pas le pays dans le chaos d'un point de vue purement institutionnel, mais cela contribue à décrédibiliser la politique, surtout lorsque une large majorité des Français pensent que leur vote n'a pas été respecté après les élections législatives de juin. Cela va renforcer encore ce sentiment que finalement, on vote, mais pourquoi ?
Il faut qu'on comprenne que si le chef du gouvernement a une sorte de retenue à ce stade à utiliser le 49-3, c'est parce que derrière, ça permet aux oppositions de déposer une motion de censure. En fait, c'est ça le risque pour Michel Barnier. Il peut d'un côté faire passer son texte, mais de l'autre perdre son gouvernement.
Absolument. Et c'est pourquoi il doit faire des concessions, soit au Nouveau Front Populaire, soit au Rassemblement National, pour s'assurer d'une attitude bienveillante qui éviterait la motion de censure votée par une majorité des députés. Et du coup, les jeux restent ouverts, mais il est probable que c'est d'abord vers le Rassemblement National que Barnier se tournera pour donner des gages.
Le Rassemblement National qui a été bienveillant jusqu'à présent avec Michel Barnier.
Absolument, et qui fait monter la pression pour que cela continue.
Alors, il faut observer aussi que si les débats ont été nombreux et nourris cette semaine à l'Assemblée nationale jusqu'à hier soir minuit, ils n'ont pas forcément été suivis par tous les députés, notamment ceux du parti du président de la République. Ce qui fait dire ceci à François Bayrou, qui préside le Modem et qui est pourtant allié de EPR, qui est Ensemble pour la République.
C'est inadmissible. Dans une situation aussi grave que celle du pays aujourd'hui, dans une situation institutionnelle aussi inédite, avoir des parlementaires qui considèrent, et ce n'est pas le premier vote, hélas, depuis le début de cette législature, qui considèrent qu'ils ont mieux à faire qu'être présents à leur banc à l'Assemblée nationale, c'est purement et simplement inadmissible. On n'a pas seulement des droits lorsqu'on est parlementaire ou lorsqu'on est citoyen, on a des devoirs. Et le devoir d'un parlementaire est de siéger sur ses bancs à l'Assemblée nationale.
Et François Bayrou a son idée sur le manque de mobilisation de ses alliés traditionnels, toujours sur BFM TV.
Je pense qu'ils ont vécu, ascenseur émotionnel. Ils ont eu la victoire d'Emmanuel Macron et de ce camp nouveau que nous avions constitué ensemble en 2017. Ils ont eu des sentiments mitigés en 2022. Et puis en 2024, ils ont connu une défaite.
Yves Saint-Omer, est-ce que les députés macronistes ont la gueule de bois? Est-ce qu'ils sont en déprime?
C'est sans doute l'une des explications plausibles, mais il faut ajouter d'autres choses. En tout état de cause, le budget qui va sortir va être un budget d'austérité. Et les députés ne doivent pas se presser à la porte pour être co-responsables d'un tel budget. Par ailleurs, pour être réélu, il y a tout de même de fortes chances que nous ayons des élections d'ici une dizaine de mois, à l'été prochain. Il faut souvent mieux être sur le terrain dans sa circonscription que dans les débats de l'Assemblée nationale où il y a, surtout en ce moment, plus de coups à prendre que de choses à gagner. Et puis, il ne faut pas oublier que les chefs de la majorité gouvernementale pensent tous à l'après, aux prochaines présidentielles. Et ont intérêt à ne pas se marquer trop en soutien du gouvernement, puisque demain ou après-demain, ils s'opposeront. Cet ensemble aboutit à un spectacle assez lamentable d'un absentéisme très fort du camp gouvernemental, qui rend la chose incroyable, parce que finalement, les amendements qui passent sont ceux, pour la plupart, du Nouveau Front Populaire, et dans une moindre mesure du Rassemblement National, et pas ceux déposés par les députés de la majorité.
Alors François Bayrou, encore lui, estime que les années qui viennent vont nous obliger à réinventer le rôle du Parlement, car on a perdu l'habitude d'avoir le gouvernement qui propose un texte et l'Assemblée qui corrige, dit-il, ce qui amène à ceux qui souhaitent plus de proportionnel. Est-ce que, justement, ce qui se passe aujourd'hui apporte de l'eau au moulin de ceux qui réclament plus de proportionnel, ou au contraire, accrédite l'idée qu'il serait encore plus difficile de trouver des équilibres et des majorités pour gouverner la France et adopter, par exemple, le budget?
Si nous avions eu la proportionnelle aux élections de juin, on aurait un résultat qui ne serait pas fondamentalement différent de celui que nous avons aujourd'hui. Le Rassemblement national est sous-représenté, le camp présidentiel un peu sur-représenté, mais on aurait en gros les trois blocs sans majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, une proportionnelle ne ferait que pérenniser la situation actuelle. Elle pourrait, à terme, peut-être entraîner un changement de la culture politique avec une culture de coalition qui n'existe pas en France, pour autant que les coalitions doivent s'étendre au-delà de la gauche ou au-delà de la droite ou au-delà du centre, mais entre le centre et la gauche, le centre et la droite. Donc ce n'est pas impossible, mais aujourd'hui, ce ne serait pas un changement majeur. Et il faut noter que dans les pays voisins, où la proportionnelle existe, on a également une crise rampante, ouverte, des systèmes politiques et une montée de la défiance. Donc ce n'est en aucun cas une recette miracle pour dépasser nos problèmes actuels.
Quand on parle proportionnel, on se remémore des excès et des difficultés de la Troisième République. Le régime politique a changé, les équilibres parlementaires, pouvoir exécutif ont changé. Donc est-ce que vous croyez qu'on retomberait dans les mêmes affres de cette époque-là, ou ce serait carrément différent ?
N'importe quel mode de scrutin, que ce soit le scrutin majoritaire ou le scrutin proportionnel, n'a pas des effets automatiques, mais dépend du rapport de force politique en général et de celui entre le Parlement et le gouvernement. Prenez le cas de l'Allemagne. Pendant des années et des années, des décennies, la proportionnelle a bien fonctionné. Il y avait deux partis et demi, ou trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Et aujourd'hui, il est déstabilisé de ce fait. L'un des désavantages de la proportionnelle, c'est que ce mode de scrutin donne un poids disproportionné à des partis charnières qui peuvent peser bien au-delà de leur poids politique parce qu'ils permettent une coalition dans un sens ou dans un autre. Il est vrai que dans le cas français, le gouvernement étant extrêmement puissant par rapport au Parlement, cela limiterait les choses.
À voir. À voir, et vous étudierez tout cela avec bien évidemment beaucoup d'attention, puisque vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 8. Yves Saint-Omer, merci pour vos analyses et commentaires. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre intitulé « La petite histoire de l'expérimentation démocratique » aux éditions de La Découverte. C'était Dimanche Politique, à retrouver sur le site internet et l'appli RFI.